de temps. Hein ? Sur la foi. Alors, est-ce que ce thème-là vous a aidé ? Est-ce que ça a éclairci ? Est-ce que ça vous a affermi ? Est-ce que vous savez mieux exercer votre foi en Dieu ? Est-ce que vous avez plus confiance en lui ? Est-ce que vous savez mieux recevoir de Dieu les promesses qu'il vous a faites ? Ceux qui ont besoin de santé, ceux qui ont besoin d'une meilleure situation financière, ceux qui ont besoin de recevoir un local pour leur culte, ceux qui ont besoin de déclarer que ce local est entièrement refait, entièrement meublé. Voilà comment on reçoit les choses de Dieu, en sachant que Dieu a prévu à tout ce dont nous aurions jamais besoin. C'est pas une question de... Non, Dieu a déjà tout prévu. Ce qu'il faut, c'est amener à la réalité ce qui existe déjà, mais que nos yeux ne voient pas. Parce que ça n'est que cela, la foi. Alors, regardez avec moi dans Marc chapitre 11. À vrai dire, ça va être, je crois que je n'ai donné que le verset 22, mais ça va être jusqu'au verset 26. Hein. Il est dit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Donc Jésus était passé près d'un figuier. Il aurait dû trouver des figues, c'est-à-dire qu'apparemment, ils avaient tous une petite faim. Et puis, c'était la saison des figues. Donc, ils disaient, tiens, allez, on va en prendre. Mais ils n'en ont pas trouvé. Alors, je ne sais pas encore pourquoi Jésus... Enfin, je ne sais pas, disons qu'il y a une raison qui est évidente là, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Mais Jésus a vu ce figuier qui ne portait pas de fruits. Peut-être qu'il savait que ce figuier avait été élagué plusieurs fois et qu'il aurait dû porter du fruit. Quelle que soit la raison, Jésus a maudit le figuier. Et il lui a interdit, non seulement d'en porter, mais il lui a interdit de vivre. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il ait voulu qu'il soit remplacé par autre chose. Toujours est-il que le lendemain matin, donc Jésus passe près du figuier, ne trouve pas de figue, et tous repartent avec leur faim, et Jésus maudit le figuier, et les disciples continuent. Le lendemain matin, donc il passe près du figuier, et les disciples le voient sécher jusqu'à la racine. Dites-moi, comment peut-on voir qu'un figuier est séché jusqu'à la racine? Bah oui, il n'y avait plus rien dessus. Hein. C'était pas qu'il n'y avait plus que, il n'y avait plus rien. Les branches étaient cassables. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Du style, oh, « Seigneur, ça a marché, ce que tu as dit a marché, et encore plus vite que ce que je pensais. » Jésus prit la parole et leur dit, « Eh bien, ayez foi en Dieu. » Où le grec dit, « Ayez le genre de foi de Dieu. » C'est-à-dire que la démonstration que j'ai faite devant vous, eh bien, utilisez ce concept de parler les choses afin qu'elles soient amenées à l'existence. C'était une démonstration. Et le Seigneur dit, eh bien, moi, c'est ce que j'ai appris de mon Père. Moi, maintenant, vous venez de l'apprendre de moi. Et c'est ainsi que vous devez vivre. Dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, encore il est question de dire, à quoi? À une montagne, à tout ce qui peut représenter un obstacle. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il est dit, s'il ne doute pas en son cœur, qui ne doit pas douter? Celui qui a parlé. Qui est celui qui doit parler? Ben, celui qui a une montagne. Combien de fois nous ne souhaitons pas que ce soit quelqu'un d'autre qui parle à notre place? C'est celui qui a un problème qui doit parler à son problème. Ne laisse pas les autres parler à ta place. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, ta voix est unique. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il pense arrive... Hein? Ce qu'il dit. Donc, quand tu as un problème, tu as quelque chose à dire, ne te trompe pas de mots. Quand tu as un problème, penser ne suffit pas, mais dire n'importe quoi ne suffira pas non plus. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont un problème, eh bien, alors, on dit, oh, il faut que tu parles. La Bible dit, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne parles pas des paroles de colère. Tu ne parles pas des paroles de doute. Tu ne parles pas de j'en ai ras-le-bol. Pourquoi ? Parce que ta montagne, elle va rester devant toi. Et il y a même de grandes chances qu'elle augmente de taille. Mais en revanche, s'il croit que la parole d'autorité qu'il a parlé sur cet obstacle, s'il croit dans son cœur que ce qu'il a dit arrive, la Bible dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai passé plusieurs dimanches à expliquer ce concept de la foi, comment nous, les êtres humains, sommes conçus. Nous sommes conçus pour amener à l'existence notre destinée en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas que sur la journée d'aujourd'hui, mais nous parlons sur les mois à venir. Ma question est, que dis-tu concernant l'année 2019 ? Que dit-on concernant les dernières années que tu passeras sur Terre ? Que dis-tu ? Est-ce que tu dis ce que le gouvernement dit ? Est-ce que tu dis ce que ta famille a dit de toi ? Que dis-tu de toi ? Je vais vous dire, beaucoup de choses à dire. On parle la santé, on parle les biens matériels, l'aisance pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Nous parlons la force, nous parlons un raisonnement clair. Nous parlons la sagesse, nous parlons le conseil de Dieu. Nous parlons la transmission. Nous parlons que nous avons les désirs de notre cœur jusqu'à la dernière minute. Nous avons les désirs de notre cœur, si c'est ce que nous disons. De toute façon, ce n'est pas difficile. Ou on a les désirs de notre cœur, ou on a les désirs de notre chair. Mais on va avoir quelque chose. C'est énorme. Et puis, on se dit, avec tout ça, dit pasteur, quand même, je devrais voir toutes mes prières exaucées. Techniquement, oui. Tout ce que Dieu dit que nous avons, nous pouvons l'avoir. Je répète. Tout ce que Dieu dit que nous avons, il nous le dit pour que nous l'ayons. Je répète. Tout ce que Dieu dit qui est nôtre, il nous le dit pour que nous l'ayons. Il nous le dit pour que nous le disions. D'abord, il nous le dit pour que nous y croyions. Ensuite, il nous dit ce qui est nôtre pour que nous le disions. Et ensuite, il nous dit ce qui est nôtre pour que nous l'ayons, pour que nous le voyons. Donc, pour un chrétien de manquer de ce qui lui est nécessaire pour sa destinée, mes amis, c'est impossible. Mais vous avez remarqué que le verset 22 à 24, vraiment, clap, 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 ça nous réjouit. Parce que c'est magnifique de savoir comment on peut avoir les choses. Il n'y a que moi qui s'amuse ici ou quoi ? Ok, allez. On continue parce qu'il y a le verset 25. Et il y a peut-être des personnes qui disent, mais dans ces cas-là, je ne comprends pas parce que avec ce que je sais, j'aurais dû voir les bénédictions, j'aurais dû voir les guérisons, j'aurais dû voir des promotions auxquelles je crois, j'aurais dû voir quoi que ce soit pour lesquelles vous croyez. Alors, il est vrai qu'il y a une question de temps. On dit les choses, on les a lancées, on a lancé ces paroles dans l'esprit et il faut un laps de temps. Mais à un moment, quand les choses tardent, il y a autre chose que des oppositions sataniques. À vrai dire, je vais vous dire, franchement, j'y ai pensé toute la semaine à cela, même plus d'ailleurs. C'est qu'il y a très peu d'oppositions sataniques. Les gens parlent, les chrétiens parlent, oh, le diable a fait ci, le diable a fait cela. Je vais vous dire, il y a deux choses qui font que La vie est difficile. Un, c'est notre ignorance. On ignore qui nous sommes en Christ. Nous ignorons ce qui nous appartient. Nous ignorons ce que nous pouvons faire. Et la deuxième chose, eh ben, c'est ce que je vais vous lire maintenant au verset 25. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, moi, je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai pas demandé de venir. Je ne vous ai pas obligé à venir. Donc, croyons que Dieu parle à chacun. Moi, j'ai entendu ce message avant vous, d'accord? Il est dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Donc, pourquoi la personne est-elle en train de faire sa prière? Ben, justement, pour demander. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quelqu'un est debout en train de faire sa prière. Il est dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, continuez à réfléchir, continuez à méditer, continuez à l'entretenir, continuez à retourner dans cette situation. C'est ce qu'il est dit ? Non, il est dit pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, à nouveau, on aime les... Je vais revenir sur ce passage. On aime les versets 22 à 24. Le verset 25, on a tendance à le mettre de côté. Or, c'est un verset qui est clé, parce que la Bible nous dit que quand nous avons fait tout ce que nous disent les versets 22 à 24, si le verset 25 n'est pas pratiqué, nous annulons les versets 22 à 24. Combien de pas de la foi ne remportent pas de succès? Combien d'exaucements de prières ne sont pas reçus parce qu'on a quelque chose contre quelqu'un? C'est même pas la peine, il y a même pas la Bible ne parle pas d'une liste de personnes, une personne. Si nous avons quelque chose, alors très souvent nous acceptons que, bon d'accord, les grosses offenses, ça, il faut que je pardonne, ça, il faut que je pardonne. Mais les petites offenses, très souvent, la personne qui nous a offensés ne s'en est même pas rendu compte, mais nous, on l'a saisie. On l'a reçu et on a tellement médité sur cette offense, sur ces paroles, que finalement, vous savez que quand on, ce sur quoi on médite, vous savez, dans l'esprit, il n'y a ni temps ni espace. Maintenant, si je veux, je peux être sur une plage en Bretagne. Je vois laquelle. Un peu froid, mais je peux très bien vous oublier et continuer à marcher sur cette plage-là. Parce que nous sommes faits. Nous sommes faits pour être là où nous pensons. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé de place. Il y a des gens, ça fait des semaines et des mois, qui n'ont pas avancé. Et ils ne peuvent pas, parce qu'ils restent dans les circonstances de la même offense. Et le pire, mes amis, on est en train de terminer l'année là, hein. Écoutez, m'en voulez pas, moi je prêche ce que j'ai à cœur. Hein, donc, mais le pire, c'est quand nous justifions la raison pour laquelle nous restons offensés. Le pire, c'est quand nous justifions que nous trouvons des raisons, nous trouvons des excuses valables pour lesquelles nous avons le droit de nous offenser. ne réalisant pas que cela est le plus grand obstacle qui soit à notre propre foi. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de macérer à écouter les mêmes mots, nous sommes en train de nager dans cette vase de l'offense, dans cette boue des circonstances. Et en général, on est seul à y nager et à s'y enfoncer. Parce que l'autre ou les autres, ils ont déjà pris la poudre d'escampette par la foi, en refusant de rester là, dans ce marécage. Et on trouve des excuses. Ouais, mais tu comprends pas, moi, d'où je viens, ce qu'on m'a fait, comment il m'a traité, ce qu'elle a pensé. La Bible dit, tu viens de mettre ta destinée sur pause. Tu peux avoir entendu toute la parole. Tu peux avoir entendu les merveilleux, glorieux sermons oints du pasteur Marie-Hélène Moulin. Ah ben, ils disent ce qu'ils veulent les autres quand ils sont derrière le micro. Hein. Là, c'est mon tour. Tu peux avoir... Je vous assure que rien qu'avec ça, déjà, certains vont s'offenser en l'écoutant sur Internet. Tu peux avoir entendu la parole. Tu peux avoir expérimenté la puissance de Dieu. Si tu as des offenses, une offense qui reste contre une seule personne, tu as mis ta destinée sur pause. Les grosses rancœurs, bon d'accord, ok, alors ça je comprends. Mais la Bible nous dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont les petites choses que l'on accepte de garder. Et le Seigneur dit, la foi cesse d'agir. Il y a Liliane Yeoman qui disait, « Si je prie et que je n'ai pas de résultat, je commence à changer. » Pourquoi je commence à changer? Ou je commence à me demander où je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer? Parce que Dieu ne change pas, lui. Ce qui est écrit a traversé les siècles, a traversé les âges, les générations, a traversé les cultures. Parce que c'est la parole de Dieu. Et que ça ne changera pas. Le concept de la foi ne changera pas. Et donc, quand nous voyons que des situations ne bougent pas, eh bien, quand on a compris que le diable est sous nos pieds, à un moment, il faut se poser la question, ok, et moi? Pour vous dire la vérité, c'est la première question que je me pose. La première chose que j'examine, quand des exaucements n'arrivent pas, c'est est-ce que j'en veux à quelqu'un? Puis ça peut être subtil, hein? Parce que vous savez, quand on en veut à quelqu'un, on ne le chante pas forcément sur tous les toits. C'est pas vrai? En général, c'est un monologue qui se passe. Mais, je vais vous dire, je m'arrange pour en sortir rapidement. Que je puisse parler à la personne, si je sais que la personne écoutera ou m'autorisera à le faire. Et si la personne, je sais que la personne ne m'autorise pas, je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va empirer une situation? Je ne dirai rien. Mais, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, je vais m'assurer que vis-à-vis de Dieu, mon cœur est comme il faut. Mon âme n'a retenu aucune offense. Aucune offense. Vous avez entendu parler de Caroline Leaf, qui est une neurologue. Hein, et moi, je recommande écouter ses messages. Et une spécialiste du cerveau. Et elle étudie le cerveau depuis 30 ans. Au début de ses études, elle dit qu'elle était convaincue que ce que nous pensons, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre âme, Notre âme, la Bible dit que nous sommes un être spirituel. C'est vrai que nous avons une âme, nous sommes un être esprit, nous avons une âme, c'est-à-dire c'est là le siège de nos émotions, de notre intelligence et de nos pensées, de notre volonté. Et nous habitons un corps. Et Caroline Leaf dit, j'étais convaincue au tout début de mes recherches, de mes études, que ce que nous pensons, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre âme, les émotions que nous permettons ou pas, modifient notre cerveau. Notre cerveau, ce n'est pas notre âme. Notre cerveau fait partie de notre corps. Notre cerveau est un moteur de chair. Moi, pour moi, c'était tellement évident, parce que je n'ai jamais pu m'empêcher de me dire, comment se fait-il que l'on voit un bébé, que l'on voit un enfant, on voit certains traits, on voit cette personne devenir un jeune homme, une jeune fille, ils sont beaux, on les prend des années après. Alors, bon, il y a les cellules qui changent et tout ça, mais certains n'ont plus, on reconnaît plus, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Comment se fait-il que leur corps, c'est pas juste une question génétique, c'est à cause de ce qu'ils, parce qu'ils ont modifié leur cerveau. Parce que les pensées se traduisent dans notre cerveau comme des impulsions électriques qui donnent une certaine forme à ce qui est représenté comme des arbres dans notre cerveau. Une fois, j'avais prêché là-dessus. Reprenez le message sur les pensées que j'avais prêché. Et c'est ce qui se passe dans notre cerveau est modifié physiquement en fonction de ce que nous pensons. Les cellules, Caroline Leaf dit, notre ADN peut être modifié. Alors, il y a ce que nous avons reçu de nos parents, c'est certain, mais il y a ce que nous acceptons maintenant. Elle dit ceci, elle dit, nous sommes faits pour aimer, être aimés et aimer, et nous sommes faits pour vivre en groupe. C'est-à-dire, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Si vous êtes déplacé pour assister à cette étude que nous avons vue dans les groupes de connexion, ben ça ressortait très clairement. Nous ne sommes pas faits pour vivre en groupe, mais vous savez qu'on peut vivre seul mais nous pouvons vivre seul dans un groupe. Si on n'est pas connecté, si on fait rien, on vit seul dans un groupe. Comment recevoir de l'amour si nous sommes dans un groupe et que nous ne sommes pas connectés? Et elle dit que ceux qui sont impliqués dans un groupe, dans une communauté, ont une meilleure résilience dans le domaine mental, de la santé physique et cognitif. Tout ce qui a à voir, le raisonnement, etc. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité à absorber des chocs et à rebondir. L'idée, à vrai dire, c'est de faire un bond en arrière et de rebondir. Une forme d'élasticité. Et quelqu'un qui est en bonne santé mentale, émotionnelle, même quand il entend une mauvaise nouvelle, ah, ça lui fait un choc. C'est comme un coup de poing que l'on reçoit dans l'estomac. D'ailleurs, c'est tellement vrai que physiquement, c'est ce qui se passe. Donc, pour ne pas avoir des problèmes d'estomac, qu'est-ce qui vous fait rebondir? Et quelqu'un qui est dans un groupe, qui fait partie d'un groupe, d'une communauté, il a cette capacité à rebondir. Et les autres? Ben, ceux qui veulent rester seuls, ben, ils absorbent, ils encaissent. Voilà le mot, ils encaissent. Et ils gardent, et ils gardent, et ils gardent. Et pendant ce temps, ce qu'ils ont gardé modifie les cellules de leur cerveau. Évidemment, comme c'est le cerveau qui commande le corps, qui donne des ordres à tout le système nerveux, cardiaque, etc., eh bien, ça se reporte sur le corps, et le corps tombe malade. Elle dit que ceux qui sont impliqués dans des groupes, dans des communautés, donc ont une meilleure résilience dans le domaine mental, de la santé physique et cognitive. Également, elle a constaté une diminution des douleurs chroniques. Une amélioration de l'état cardiovasculaire. C'est-à-dire que quand on est impliqué dans un groupe, quand on aide les autres, qu'est-ce que l'on peut dire ? Ben, on se soigne soi-même. On se soigne soi-même. C'est énorme. Oui, mais qu'est-ce qui peut nous déconnecter d'un groupe ? Parce que de quoi parle-t-on ? Les offenses. L'offense est ce qui va nous déconnecter le plus facilement d'un groupe, que ce soit la famille, que ce soit des collègues de travail, que ce soit l'église, que ce soit, je ne sais pas moi, un club, si vous allez à un club de tennis, ou peu importe. Là où vous êtes connecté, ce qui va vous déconnecter le plus vite, ça va être les offenses. Tu comprends, on m'a demandé de faire ceci, non, on ne m'a pas demandé de participer à ça. Wouh, stop! Nous sommes en train de nous faire du mal. Nous sommes en train de mettre notre vie sur pause. Et comme dans l'esprit, on ne peut pas faire pause, qu'est-ce qui se passe ? On commence à reculer, c'est-à-dire à laisser notre chair prendre le dessus et à être beaucoup plus concerné par tout ce qui se passe à l'extérieur qu'à la richesse qui est à l'intérieur pour un chrétien né de nouveau. Le verset 25, je vous le lis dans d'autres versions, et chaque fois que vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de détails, le Seigneur ne donne pas de détails, c'est-à-dire quelque chose de grave, de pas grave, une personne qui commence, qui recommence, peu importe, si vous avez quelque chose, c'est-à-dire quoi que ce soit, n'importe quoi, contre quelqu'un, pardonnez-lui. Et laissez tomber, laissez aller cette offense. Afin que votre Père qui est au ciel puisse également vous pardonner vos propres manquements et lacunes. Vous savez, quand on ne pardonne pas, on est en train de faire passer le message « Je n'ai jamais besoin du pardon ». Alors, on pourrait dire, mais le Seigneur, comment ça, le Seigneur nous pardonne nos propres, il ne nous pardonne pas nos lacunes, il ne nous pardonne pas. D'abord, premièrement, cette phrase a été prononcée avant la croix, avant que Jésus ait payé pour nos péchés. Depuis la croix, le principe est encore valable. Pourquoi ? Parce que, bien sûr que nous sommes pardonnés. Il y a 2000 ans, le Seigneur s'est occupé du problème du péché. Mais quand nous ne pardonnons pas, nous perdons la conscience du pardon que nous-mêmes avons reçu. Et nous commençons à vivre comme des coupables. C'est-à-dire, en mettant l'accent sur les fautes des autres, nous devenons plus conscients du manquement des autres et de notre incapacité. Vous comprenez comment ça peut affecter notre foi ? Maintenant, comment est-ce que le Seigneur, il est dit, il ne nous pardonnera pas nos offenses ? Ben, c'est très simple. C'est que quand on fait du mal intentionnellement à quelqu'un, intentionnellement, tu vas dire, le Seigneur pardonne nos péchés. C'est vrai. Seulement, nous avons activé la loi de semer et de récolter. Je répète. Nous avons activé la loi de semer et de récolter. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, bien sûr que nous avons été pardonnés, mais il y a cette loi de semer et de récolter. Que si moi je refuse de pardonner à quelqu'un, je vais trouver quelqu'un dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que si par exemple je me suis disputé avec quelqu'un à l'église, quelqu'un de l'église va me le rendre. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un dans la rue. Mais en tout cas, j'ai activé cette loi de semer et de récolter et il me sera fait comme moi j'ai fait à d'autres. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le péché a été payé. À n'importe quel moment, je peux choisir de libérer la personne à qui j'ai fait une offense. Mais cette loi de semer et de récolter, elle fonctionne dans tous les domaines. La première personne qui va récolter, ça va être moi, si j'ai gardé une offense. Ça va être dans mon corps, ça va être certain. Pour certains, les personnes ont tellement médité que c'est devenu une obsession. Ces personnes sont devenues prisonnières. Prisonnières de leur propre méditation, de leur propre renoncement à libérer quelqu'un de son offense, à ne pas pardonner à quelqu'un. Il est dit, une autre version, et quand vous prenez la posture de la prière, rappelez-vous que ça n'est pas que pour demander. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. C'est-à-dire, décidez que cette personne ne va pas vous payer. Vous ne ferez pas payer à cette personne. Vous ne lui demandez rien en retour. Vous laissez aller. Cela veut dire que dans mes pensées, ça va commencer. Je refuse d'y penser. Je suis extrêmement stricte avec moi-même vis-à-vis de cela. Je refuse. Je ne dis pas que je réussis tout le temps dans les 5 minutes qui suivent, mais je vais m'y atteler jusqu'à ce que je n'ai plus rien. C'est un choix que j'ai fait, parce que j'ai choisi d'être en bonne santé. J'ai choisi que tous mes besoins soient pourvus. Je choisis d'entendre clairement la voix de Dieu. Tu veux dire, tu es sûr que ça nous affecte comme cela? Bon, on va voir un autre verset. Mais en tout cas, il est dit, « Pardonnez, ce n'est qu'alors que votre Père Céleste sera aussi enclin à effacer l'ardoise de tous vos péchés. » Dans le sens, la loi de semer et de récolter. Vous savez, le diable, il ne fait pas grand-chose. Franchement, je vous assure, la Bible dit qu'il est vaincu. Comment quelqu'un de vaincu pourrait faire perdre un vainqueur? Je veux dire, il y a un non-sens là-dedans. Il est vaincu. Il est vaincu. Il ne peut pas faire grand-chose en ce qui nous concerne. À part nous mentir, il ne peut rien faire. Utiliser des gens contre nous, des gens qui le suivent, c'est vrai. Cependant, les chrétiens, très souvent, échouent dans leur marche de la foi, premièrement à cause de l'ignorance, et deuxièmement, parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce verset de pardonner, de libérer. Il y a un autre verset que j'aimerais vous montrer dans Galates, chapitre 5, verset 6. Donc, on comprend que quand on retient une offense, le Seigneur ne peut pas nous empêcher de récolter ce que nous avons semé. Ça, c'est une loi qui n'a rien à voir avec le pardon des péchés. Comprenez cela. Et cette loi-là, elle est vraiment efficace. Vous l'entendez dire pour les dîmes et les offrandes, quand nous semons des finances, nous en récoltons. Quand nous semons du temps, nous récoltons du temps. Mais quand nous semons des offenses, nous en récoltons. Quand nous choisissons de garder, alors nous allons récolter. Et le Père ne peut rien faire parce que c'est une loi que nous avons activée. Lui, en revanche, n'a aucune colère vis-à-vis de nous. Au contraire, vraiment, il a plutôt de la compassion parce que nous sommes en train de nous faire piéger. Vous avez trouvé Galates chapitre 5. Il est dit, verset 6, « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est-à-dire la loi, de faire, de ne pas faire. C'est d'avoir la foi. » Je lis dans la Bible Semeur. « Une foi qui agit par amour. Mais la foi qui est agissante, par la charité, et c'est le mot amour ici. Je vous lis une autre version. Dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Une autre encore. Car lorsque nous plaçons notre foi en Christ Jésus, il n'y a aucun avantage à être circoncis ou incirconcis. Ce qui est important, c'est que la foi s'exprime dans l'amour. Une autre version. Car si nous sommes en Christ Jésus, la circoncision, l'incirconcision ne veulent rien dire. mais seulement la foi activée et exprimée et agissante par l'amour. D'ailleurs, si vous avez une autre Bible, c'est « La foi est agissante par l'amour ». Agissante, c'est quoi ? C'est le mot « énergéo ». Pour nous, Français, on peut entendre le mot qu'il y a dans ce mot grec « énergéo ». C'est quoi ? Bah, énergie. C'est-à-dire, l'amour donne de l'énergie ou de la puissance à notre foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse de marcher dans l'amour, que ce soit en gardant une offense qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il a la foi parce que nous avons la foi de Dieu. Mais cette foi, elle est stagnante. Elle est inopérante. Elle ne produit rien parce qu'il y a une faille dans la cuirasse de l'amour. Alors, cela veut dire que, oui, nous avons appris toute cette année, nous avons appris tous les concepts de l'amour, nous avons appris tout ce qui concerne la parole, nous avons appris ce qui concerne les promesses de Dieu, la fidélité du Père, comment faire passer les choses du royaume visible au royaume invisible. On a appris toutes ces choses. Et j'espère que vous ne les avez pas entendues qu'une fois, d'ailleurs. Parce que la Bible nous ordonne de vivre par la foi. Mais la clé à toutes ces choses-là, c'est que nous choisissions de ne pas vivre en fonction de ce qu'on a entendu de désagréable, de ce que l'on a vu d'offensant, de ce que l'on ressent, si ça n'est pas conforme à la parole de Dieu. La clé de tout cela est de pratiquer la marche dans l'amour. Quelqu'un peut avoir la foi à déplacer les montagnes. Ce n'est pas ce qui est écrit, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'à 8. Quelqu'un peut avoir la foi à déplacer les montagnes. S'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Bien sûr que nous avons l'amour parce qu'il a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la nature d'aimer. C'est normal pour nous d'aimer. D'ailleurs, faites l'expérience. Pensez à quelqu'un et dites « je hais, je déteste » et vous nommez la personne. Et vous allez sentir dans votre cœur, hein, vos entrailles vont se resserrer. Tellement c'est vrai. Notre nature est d'aimer. Et quand nous choisissons de ne pas le faire, ben ça devient une véritable offense. Parce que c'est un choix. C'est un choix de ne pas aimer. Et il est dit ici, eh bien, le plus grand obstacle à ce que notre foi soit efficace, c'est de choisir de ne pas libérer l'amour de Dieu qui est en nous. Regardez avec nous, avec moi encore, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Vous savez, le Seigneur veut vraiment, peut-être qu'il nous parle, peut-être certains disent, ben, je comprends peut-être pourquoi ça met tant de temps, tel exaucement met tant de temps, pourquoi. C'est simple, hein. Quand quelqu'un retient une offense contre une autre personne, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne perd en force. Très souvent, cette personne, pourquoi ? Parce que ça affecte notre corps. Notre système immunitaire souffre de cette anomalie. Et vous avez des personnes qui sont fatiguées, pourquoi ? Tu dis, tu plaisantes ou quoi ? Tu dis, peut-être que c'est une personne qui est jeune, peut-être que c'est une personne, bon, bah oui, on travaille 8 heures par jour, il n'y a pas de quoi, quand on est en bonne santé, c'est OK, hein ? Même à 70 ans, même à 80 ans. Mais c'est vrai ça, c'est vrai. Arrêtons d'être omnubilés, de mettre une limite à notre destinée, une limite d'âge. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Et après, ces personnes acceptent n'importe quel diagnostic. Et là, c'est un engrenage. C'est un engrenage qui peut durer parfois des mois. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est dit « Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissant. Et l'idée ici, c'est tendre de cœur. Vous pardonnant. Et le mot ici, c'est faire une faveur. Mais tu sais quoi? Tu mérites pas que je te pardonne. Tu mérites que je te traite comme, tiens, un paillasson. Ben, je vais te faire une faveur. Je vais te traiter comme un roi. Se montrer gracieux, c'est ce que veut dire le verbe pardonner. Plein de grâce, donner gratuitement, c'est-à-dire je ne te ferai pas payer. Alors vous allez dire, ah ben voilà. Il se peut que nous ayons offensé quelqu'un. Alors vous êtes, bon ben on reprend les choses comme c'était avant. Ben peut-être pas. Si ça recommence, mets de la distance entre toi et cette personne. Mais dans ton cœur, il vaut mieux s'assurer qu'il n'y a rien. Parce que le Seigneur est celui qui lit le cœur. Est-ce que quelquefois, une relation peut reprendre immédiatement? Pas toujours, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mais cela ne nous empêche pas de traiter avec courtoisie l'autre, de lui dire bonjour. Moi, j'ai remarqué que quand les gens cessent de dire bonjour, cessent de se regarder, cessent d'être en présence de l'autre, là, pour de bon, la situation se dégrade. Mais quand on accepte de faire preuve de courtoisie, d'honorer l'autre parce que c'est un être humain, eh bien, cela donne à Dieu le temps de réparer les âmes. Il est dit... Donc, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné, c'est-à-dire comme Dieu vous a fait une faveur, comme Dieu s'est montré plein de grâce à notre égard, comme Dieu nous a donné gratuitement. Il y avait une femme qui était venue à la prière parce que sa fille faisait des crises d'épilepsie. Et c'était une enfant qui avait des problèmes de coordination, etc. Et quand cette personne est venue vers Kenneth Hagin, le Seigneur a montré à Kenneth Hagin que cette dame-là avait vraiment beaucoup, beaucoup de rancœur vis-à-vis de sa belle-mère, vis-à-vis d'une personne proche. Et par l'Esprit de Dieu, Kenneth Hagin l'a partagé en disant, ce que je ressens, est-ce vrai? Et la personne a dit, oui, c'est vrai. Bien sûr, Kenneth Hagin lui a dit, écoutez, le mieux que vous ayez à faire, c'est laissez-la libre, laissez-la aller, pardonnez. Elle l'a fait, la prière a été faite pour sa fille, pour sa petite fille, instantanément l'enfant a été libéré. Instantanément. Et puis le témoignage, c'est que en cinq ans après la prière, l'enfant était bien portante. Deux fois, les symptômes ont essayé de revenir. Et la réaction de la maman, les deux fois, a été de dire, dans le nom de Jésus, Satan, retire-toi de ma fille, tu n'y touches pas parce que j'ai choisi de marcher dans l'amour. Et instantanément, les symptômes ont cessé. Alors, il peut y avoir mille et une raisons, ça n'est pas... Mais c'est pour vous montrer la puissance du pardon et comment quelqu'un qui a pardonné a une foi qui est audacieuse, une foi qui est sûre, une confiance en Dieu qui est forte. Parce que la foi, c'est ça. C'est la confiance en Dieu que si j'utilise ses préceptes, ses concepts, eh bien, il en sera exactement comme il m'a été dit. Regardez avec moi un autre verset, 1 Jean chapitre 3, verset 21. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance envers Dieu. C'est-à-dire que quand je ne suis pas condamné parce que je sais que Dieu lui m'a pas condamné. Dieu ne nous condamne pas. Le péché, lui, il a été réglé à la croix. Il s'en est occupé une bonne fois pour toutes. Mais quand moi, je sais que j'ai fait quelque chose, il n'y a pas besoin que quelqu'un me le dise, je le sais. Et je vais porter cette culpabilité. Et la Bible dit que si nous n'avons aucune conscience du péché, que nous n'avons pas la culpabilité, nous avons de l'assurance envers Dieu. C'est quoi la foi ? La foi, c'est une question d'assurance que je suis juste vis-à-vis de lui. Je suis en règle. Le sang de Jésus m'a lavé. Je suis en règle vis-à-vis de lui. Et ce que je lui demande, je le reçois. Une question de patience. Mais, si je sais que je ne suis pas clair dans mon âme, pardonner, c'est pardonner, mes péchés sont pardonnés, mais que moi j'ai retenu quelque chose contre quelqu'un. La Bible dit, je perds mon assurance devant Dieu. C'est-à-dire, je perds mon assurance, ben, je perds... ma foi, elle est là, j'ai la foi de Dieu, moi, vous rappelez de cela. Mais il n'y a pas de puissance pour la faire jaillir. Parce qu'il y a un problème avec l'amour. Et ensuite, le verset dit, donc, si mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance envers Dieu, et quoi que ce soit que je demande, je le reçois de lui. Parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons les choses qui lui sont agréables, le commandement, le plus grand commandement, englobe tous les autres, aime ton prochain comme toi-même. Et tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain comme toi-même. Un autre verset dit, une autre traduction, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous convainc pas de culpabilité, nous avons confiance, assurance complète et audace devant Dieu. Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons, parce que nous observons avec soin et constance ses commandements et faisons les choses qui lui plaisent à ses yeux, cherchant habituellement à suivre son plan pour nous. » Et puis il y a ce verset qui nous dit 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Vous savez, nous sommes dans une période de transition là, nous sommes en train de passer de 2018 à 2019. Eh bien, on va laisser des vieilles casseroles derrière nous. Je ne sais pas comment vous voulez vivre 2019. Mais moi j'ai décidé comment j'allais vivre 2019. Et j'ai décidé, le diable, je ne m'inquiète pas pour lui, parce qu'il est, franchement, il est sous mes pieds, il ne m'intéresse pas. Mais moi, l'état de mon âme, ça, je veux m'assurer que tout est clean en passant à 2019. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Je ne peux pas me charger de votre âme. Chacun est responsable sous son toit. C'est la vôtre ? Vous en êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de celle de votre mari, de votre épouse. Vous n'êtes pas responsable de celle de vos enfants, grands-parents. Chacun est responsable de ce qui lui a été confié. Regardez ce qu'il est dit ici, dans 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Comment savoir si quelqu'un est né de nouveau ? Naître de nouveau, c'est naître d'en haut, c'est-à-dire changer de nature. C'est un miracle qui se passe dans le cœur de la personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Dieu fait un miracle, il change la nature, il retire, il anéantit plus aucune trace de la nature du péché dans l'esprit de la personne. Et maintenant, cet être humain a la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est ce qui nous est dit. Dieu est amour. Donc comment savoir si quelqu'un est né de nouveau ? La première chose visible qui apparaît, c'est que cette personne se met à aimer les autres. Et aimer, c'est quoi ? Ben, c'est avoir plus de patience, c'est être plus tolérant, c'est faire preuve de plus de bonté. C'est tout ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il y a un moyen de savoir si quelqu'un est né de nouveau ou pas. Il y a plus de douceur, il y a plus de choses. Si quelqu'un, au bout de 10 ans, a toujours ces mêmes, exactement, il n'y a rien qui a changé, on peut douter que cette personne soit née de nouveau. Mais là, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Il n'est pas dit, nous aimons ceux qui nous sont sympathiques. Il n'est pas dit que nous aimons ceux qui ne pensent que bien de nous, ceux qui ne nous parlent que bien. Et dit, nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ça, c'est intéressant. Il est dit, Dieu est lumière. La Bible nous dit dans Colossiens que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous avons été transférés. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons changé, pas seulement à l'intérieur, mais nous avons changé de juridiction, de domaine spirituel. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. D'ailleurs, c'est ce que dit cette version-ci, je vous la lis. Il est dit, en ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère, écoutez, demeure en la mort. Je vais vous lire et terminer avec 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre salut quand on retient une offense. Ça ne veut pas dire que quand on retient... Oui, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, on ne va pas voir... Alors vous allez dire, oui, mais quand même, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau et puis ils font de bonnes choses. Oui, mais la racine, elle est purement égoïste. Je sais que ça semble énorme, mais réfléchissez et puis voilà, hein, faites-en ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un, parce que ça lui apporte quelque chose, au fond de lui-même, ça lui apporte. Mais le véritable amour est de faire quelque chose pour les autres, même quand ça nous coûte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein? Mais 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, Dieu est lumière. Et il n'y a en lui nulle ténèbre. Il n'y a pas de suspicion en Dieu, il n'y a pas de revanche. Dieu ne cherchera jamais à te faire payer pour quelque chose qui ne lui a pas plu. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de dépression en Dieu. Tu n'as pas de demander, il va me faire la tête, il ne va pas me faire la tête. Il n'y a pas de ces choses, il n'y a pas de confusion. La confusion appartient aux ténèbres, il n'y a pas de confusion en Dieu. Dieu ne ressasse pas ton passé. En revanche, il ressasse ton futur. Parce que ce qu'il voit, c'est glorieux. Parce qu'il pense à ton futur en tant que créature née de nouveau. Avec les nouvelles capacités que tu as. Ce que tu vas obtenir par la foi. Il est dit, si nous disons que nous avons la même communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Si nous marchons dans la lumière comme Dieu est en la lumière. Nous avons la communion l'un avec l'autre et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons changé de nature spirituelle, nous avons changé de pays spirituel et nous sommes maintenant à la lumière. C'est-à-dire que nous voyons les choses telles qu'elles sont, telles que Dieu les voit. Nous voyons les choses telles qu'elles sont. Mais quand nous refusons, et le sang de Jésus nous purifie. C'est-à-dire que même quand nous avons commis une erreur vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et que nous ne le savions pas, le sang de Jésus nous lave automatiquement. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dit, écoute, tu sais, oh là là, je ne sais pas, mais peut-être que j'ai manqué d'amour vis-à-vis de toi, alors pardonne-moi. Et hein, je suis là, je dis, oula, c'est compliqué ton histoire. Là. Arrête, va plutôt, je sais pas, tiens, va te promener au parc Albert Ier, là, mais c'est. Non, la Bible dit, nous sommes. C'est-à-dire que si je pêche contre vous et que je ne le sais pas, le sang de Jésus m'a lavé. Maintenant, il est question de lumière, il est question de ténèbres. C'est que quand nous choisissons de ne pas marcher dans l'amour, les ténèbres nous aveuglent. Une des choses que je redoute le plus, mais je ne le dis pas parce que ce n'est pas une confession de foi de ma part, hein, c'est pour vous montrer l'importance que ça a, c'est de ne pas entendre clairement la voix de Dieu. Pour moi, c'est la chose la plus importante. de me tromper moi-même. Et je sais que si je fais les choses à la manière de Dieu, si je reste à la lumière, même si je me trompe, le Seigneur me récupérera. Si je choisis les ténèbres, parce que je choisis de ne pas marcher de l'amour, je choisis de garder une offense, alors la loi de semer, de récolter sera activée et les ténèbres m'aveugleront. Ça ne veut pas dire que je perds mon salut, mais cela veut dire quoi ? Le raisonnement devient faux, c'est-à-dire on risque de signer des contrats qui ne sont pas bons, de prendre des engagements qui n'étaient pas de Dieu, de faire marche arrière quand on aurait dû faire marche avant, d'avoir peur. Tu sais, quand tu es à la lumière, tu n'as pas peur quand Dieu te dit « fais cela ou fais cela ». Pourquoi ? Ben parce que tu vois clairement ce qu'il y a à faire. Mais quand tu ne vois pas clairement ce qu'il y a à faire, ben là, la peur, elle vient sur toi. Tu entends une mauvaise nouvelle, le docteur te donne une mauvaise nouvelle et la peur te saisit. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a des offenses que nous avons retenues. Nous ne marchons plus à la lumière de Dieu, à la lumière de la révélation que nous avons, à la lumière de la nature de Dieu que nous avons. Alors, la transition, on est en train de la faire là, elle a commencé. Peut-être que le Seigneur a commencé. C'est-à-dire que marcher hors de la zone de l'amour, c'est se trouver en terrain miné, en terrain dangereux. On a une belle année devant nous. Rien, rien, rien ne peut nous empêcher de recouvrer la santé, de recevoir tout ce que l'on a demandé à Dieu et que l'on sait qu'il veut nous donner. Rien ne peut nous empêcher d'être à des niveaux différents dans tous les domaines de notre vie, au point que l'année prochaine, on fera un peu le point de l'année 2019 et on se dira, tu sais quoi ? C'était la meilleure année de ma vie. La meilleure année de ma vie. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Mais, cela dépend de chacun. Vous savez, en Bretagne, les gens sont très, très, très conscients, se sentent responsables des émotions des autres. Par exemple, en Bretagne, on va dire, ah bah, tu sais, tiens, je donne ça à tel enfant parce que si je ne donne pas à l'autre, l'autre, il va se vexer. Bah, c'est son problème. C'est une question de maturité de ne pas se vexer. C'est son problème. Si je sais que ce que je fais est juste et que l'autre se vexe, c'est son problème. Je ne suis pas responsable des émotions des autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans le pastorat. Je l'ai appris assez tôt. Et je ne suis pas responsable des émotions des autres. Je ne suis pas responsable des émotions de ma sœur. C'est à elle de régler. Si elle a quelque chose, si elle avait quelque chose, bon, ça se voit en général. Mais je peux vous dire, c'est son problème. C'est pas le mien. Je peux l'écouter, je peux lui donner un conseil, mais à un moment, il faut qu'elle arrête de pleurer sur mon épaule. D'abord, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et moi, je ne vais pas pleurer sur la sienne non plus. Je ne sais pas d'où ce truc-là. Chacun fait sa part. Chacun marche avec Dieu. Des fois, on dit, oh, tu sais, je ne vais pas dire telle chose parce que ça va vexer un tel ou un autre. Est-ce que c'est dans l'amour que tu veux le dire ? Oui. Est-ce que c'est la vérité ? Oui. Tu sens que c'est le moment ? Oui. Eh bien, alors, fais-le. Dis-le ! Oui, mais si l'autre, c'est son problème. C'est son problème. Et très souvent, dans les églises, au nom de l'amour, qui est là, ça donne une définition complètement falsifiée de l'amour. Ce n'est pas l'amour divin, ça. On n'ose pas dire, on n'ose pas... Si quelqu'un, tu sais que la personne ne va pas recevoir ce que tu vas lui dire, dans ces cas-là, tu ne peux pas le dire. Si c'est une personne qui est jeune en Christ, ben, on essaie pour lui montrer comment ça marche. Si c'est une personne adulte, tu ne peux pas le lui dire. Bon, ma question est, qu'est-ce que vous voyez pour 2019 ? Qu'est-ce que vous avez décidé que vous allez recevoir pour 2019 ? Ma question est, qu'est-ce que vous n'allez pas emmener avec vous comme de 2018 à 2019 ? Vous savez, franchement, j'aurais pu prêcher sur un autre message, hein. La foi et la patience, je n'ai pas encore prêché là-dessus. Hein, mais ça, c'est encore une autre facette. C'est les deux vont ensemble, la foi et la patience, c'est indissociable. Mais non, je n'avais pas ça à cœur. Et je dis merci Seigneur, il est bon. Il est bon envers nous. Alors le pire, c'est de s'offenser pour quelqu'un d'autre. Style, moi, si j'avais été à ta place, tu sais, je l'aurais mal pris. Ben ouais, mais c'est ce qui se passe. C'est que tu t'es mis à la place de l'autre et que tu l'as mal pris. Mais arrêtons de donner, d'expliquer pourquoi nous avons raison d'en vouloir à quelqu'un. Arrêtons de l'expliquer, ça. Ça ne tient pas devant Dieu. Allez, on va se lever. Maintenant, s'il y a des mises au point que vous avez besoin de faire, allez-y, faites-les. Hein. Dites à l'un, à l'autre, c'est moi, j'ai besoin de te parler parce que je n'ai pas compris, là. C'est possible. Maintenant, si vous en avez parlé, arrêtez d'en parler, quoi. C'est... Oh là là, franchement, moi, j'admire la patience que le Seigneur a avec nous. Hein. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir une foi forte, audacieuse. On ne peut pas se permettre. Allez, chacun élève son cœur, chacun parle à Dieu de ce qu'il veut d'ailleurs. Chacun dit à Dieu ce qu'il n'amène pas avec lui en 2019. Moi, je l'ai déjà fait, donc voilà. Chacun le dit à Dieu. Et puis, si jamais vous dites, moi, j'ai rien, ça peut arriver, hein. Eh bien, et que vous connaissez quelqu'un qui a un bagage, qui a des mal avec lui, avec elle, eh bien, priez pour cette personne. C'est aussi simple. Et moi, je crois que il y a des systèmes immunitaires, émotionnels, physiques qui sont en train de se raffermir, se fortifier. Je crois qu'il y a la paix qui est en train de venir dans certains cœurs. Il y a des décisions qui deviennent plus claires, là. Il y a des peurs qui partent, c'est ce qui se passe. Hein. Et puis, Père, nous te remercions parce que ton sang nous lave, lave notre âme. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, merci. Merci mon Dieu parce que tu ne nous laisses pas là où nous sommes, dans un marécage mortel. Tu ne nous laisses pas là mon Dieu, mais nous voyons marcher sur le sentier sûr de ta volonté, en pleine lumière Père. Oh Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous justifier. Stop là. Ressaisissez chacune de vos pensées. Chopez-la au vol, cette pensée-là. N'oubliez pas que ça impacte notre corps. Douleur chronique, au nom de Jésus, vous partez. pression sanguine, tu descends dans le nom de Jésus, parce que nous sommes en train de marcher dans l'amour. Migraine, au nom de Jésus, tu t'en vas, tu ne peux pas rester là. Rythme cardiaque, tu deviens normal. À nouveau, tu deviens normal. Parce que nous marchons dans l'amour. Peur, au nom de Jésus, tu ne peux pas continuer à nous défier. Parce que nous sommes pleins d'assurance devant notre Dieu. Et devant les circonstances, au nom de Jésus. Amen. Tu veux te tourner vers ton voisin, dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Voulez-vous asseoir, s'il vous plaît? Dites donc quel message, hein?